Alors, à force d'échapper au temps de l'histoire en train de se faire, c'est comme si l'on prenait la position des golfeurs pour voir les choses directement dans l'immobilité. Les nouvelles qui font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les plus importantes. Il y a des phénomènes sous-jacents qu'on n'entend pas, dont le glissement est imperceptible et qui changent, je dirais, la vie du monde.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. En ce mercredi 14 janvier, permettez Marie, Clément et moi-même de vous souhaiter une très belle année 2015. Faite d'amour, de réussite, de santé et d'histoire. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écouter chaque mercredi sur Transistor en 2014 et nous vous en remercions. Comment mieux commencer 2015 qu'en vous retrouvant après ces 2 semaines d'interruption de nos programmes? Et oui, ces premières semaines de janvier sont chaque année l'occasion d'interminables échanges de vœux. Mais entre deux, bonne année et bonne santé, vous aurez bien 3 minutes 42 pour écouter la chronique historiographique de Marie.
Historiographie, nom féminin, au sens large, manière dont on fait l'histoire, c'est-à-dire comme on fait l'amour, avec beaucoup de positions différentes. Ah là là, l'histoire. L'histoire, c'est lourd, c'est relou, c'est pesant. D'ailleurs, on nous rabâche tout le temps les oreilles avec le poids de l'histoire. En bonne historienne du XXIe siècle, je suis allée consulter les archives de notre temps. Et les archives de notre temps, c'est Google. J'ai tapé « poids de l'histoire ». Et là, qu'est-ce qui sort? La traite des Noirs, la décolonisation de l'Algérie, le conflit israélo-palestinien, et un footballeur qui dit qu'en jouant à Liverpool, il sent à chaque match le poids de l'histoire et de ses responsabilités de défenseur. On en fait des tonnes avec l'histoire, surtout quand elle est contemporaine. Il y a aussi tous ces lieux chargés d'histoire. Ouais, enfin, d'après Google, le top lieu chargé d'histoire en France, c'est l'abbaye médiévale de Lompon en Picardie. Voilà, voilà. L'abbaye de Lompon n'est pas d'abord l'incarnation du dynamisme. Le problème de poids, c'est que cela nous fait croire que l'histoire fige et glace les choses. On a fait l'histoire d'un lieu, d'un événement, d'une population, on n'a plus besoin d'y revenir. En fait, c'est mieux quand on fait seulement un peu d'histoire. C'est toujours comme ça qu'on fait passer la pilule dans les guides touristiques, avec une rubrique « un peu d'histoire ». Faut pas en abuser. Un peu d'histoire parce que...
Pas trop pris, gros !
Bref, bref, n'en prenons pas trop. L'histoire nous pèse. Ah, on se porterait sans doute bien mieux si on n'en faisait pas. On a-t-il besoin de savoir comment on vivait à l'époque mérovingienne ? En quoi cela pèse-t-il sur nos existences ? En quoi ça nous concerne ? Ah ça oui, l'histoire est pesante. Mais combien pèse l'histoire ? Chers auditeurs, je me suis documenté là encore. L'histoire pèse 690 grammes exactement. 690 grammes, c'est le poids d'un manuel d'histoire dans le cartable d'un collégien français niveau 5e.
Oh là là, c'est lourd!
Pas tant que ça. Déjà, il y a de la géo dans le manuel. 690 grammes, c'est le poids qu'il faut aujourd'hui pour traiter l'histoire de la France, de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne du 7e au 17e siècle. Un peu léger pour foutre du plomb dans la tête de nos gones, n'est-ce pas? Alors n'importe quel élève du secondaire que vous interrogerez vous dira...
Ah ouais, mais l'histoire, c'est vraiment trop chiant!
Ouais, paraît que l'histoire, c'est lourd, ça passe mal, ça reste sur l'estomac. Et en fait, je vais vous filer un scoop. L'histoire, c'est chiant quand ça n'est que des dates. Or, les dates, c'est de la chronologie. Et faire de l'histoire, c'est faire tellement autre chose et tellement davantage que de la chronologie. Moi, j'ai le cœur lourd quand on me dit que je fais sûrement de l'histoire parce que j'ai la passion des dates. Mais on s'en fiche des dates. Je crois qu'il y a quelque chose de pas très clair dans l'esprit de nos contemporains. On confond le passé, la mémoire, les dates avec l'histoire. Mais le passé, c'est le pur enchaînement des choses dans le temps déjà écoulé. Et parfois, ça a des influences sur le présent. En Afrique, en Algérie, en Israël-Palestine, dans bien d'autres endroits. Parce que ce passé est encore dans les mémoires. La mémoire, c'est le souvenir qu'on garde d'un événement passé, comme une guerre. Première ou non, mondiale ou pas. L'histoire, c'est bien autre chose. C'est très léger, en fait. C'est une affaire d'interprétation du passé. Ça n'est jamais que donner du sens à ce qui s'est passé et ne s'est pas passé. Un peu comme une chantilly de sens sur la coupe glacée des faits et des mentalités. Voilà comment j'aimerais faire l'histoire au XXIe siècle, en faisant déjà comprendre à tous les collégiens de France et de Navarre, et si possible au reste de la société, que ce serait bien s'ils faisaient de l'histoire en distinguant des causes, des conséquences, des logiques, des tendances, et pas en apprenant par cœur des fichues dates.
Merci Marie pour cette belle réflexion sur le mépris des dates, qui devrait nous unir, nous historiens et futurs historiens. Je souhaiterais à ce propos, et comme un petit cadeau de Noël en retard, partager avec vous ce très beau texte d'Antonio Gramsci, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je hais le nouvel an. Chaque matin, à me réveiller encore sous la voûte céleste, je sens que c'est pour moi la nouvelle année. C'est pourquoi Je hais ces nouvel an à échéance fixe qui font de la vie et de l'esprit humain une entreprise commerciale avec ses entrées et sorties en bonne et due forme, son bilan et son budget pour l'exercice à venir. Ils font perdre le sens de la continuité de la vie et de l'esprit. On finit par croire sérieusement que d'une année à l'autre existe une solution de continuité et que commence une nouvelle histoire. On fait des résolutions et l'on regrette ses erreurs, etc., etc. C'est un travers des dates en général. On dit que la chronologie est l'ossature de l'histoire, on peut l'admettre. Mais il faut admettre aussi qu'il y a 4 ou 5 dates fondamentales que toute personne bien élevée conserve fichées dans un coin de son cerveau et qui ont joué de vilains tours à l'histoire. Elles aussi sont des nouvel an. Le nouvel an de l'histoire romaine, ou du Moyen-Âge, ou de l'époque moderne. Et elles sont devenues tellement envahissantes et fossilisantes que nous nous surprenons nous-mêmes à penser quelquefois que la vie en Italie a commencé en 752 et que 1490 ou 1492 sont comme des montagnes que l'humanité a franchies d'un seul coup en se retrouvant dans un nouveau monde, en entrant dans une nouvelle vie. Ainsi, la date devient un obstacle, un parapet qui empêche de voir que l'histoire continue de se dérouler avec la même ligne fondamentale et inchangée, sans arrêt brusque. Comme lorsqu'au cinéma, la pellicule se déchire et laisse place à un intervalle de lumière éblouissante. Voilà pourquoi je déteste le nouvel an. Je veux que chaque matin soit pour moi une année nouvelle. Chaque jour, je veux faire les comptes avec moi-même et me renouveler chaque jour. Aucun jour prévu pour le repos. Les pauses, je les choisis moi-même quand je me sens ivre de vie intense et que je veux faire un plongeant dans l'animalité pour en retirer une vigueur nouvelle. Pas de rond de cuir spirituel. Chaque heure de ma vie, je la voudrais neuve. Fût-ce en la rattachant à celle déjà parcourue. Pas de jour de jubilation, aux rimes obligées collectives, à partager avec des étrangers qui ne m'intéressent pas. Parce qu'on jubilait les grands-parents de nos grands-parents, etc., nous devrions nous aussi ressentir le besoin de la jubilation. Tout cela est écœurant.